Astronaut Podcast. Palmis Production. Vivid Cat. Francophonie, vous ne glaubez pas.
Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, eh bien, nous recevons un autre invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissez pas encore, vous allez faire toute une découverte. Pour certains, il est ce grand argentier, oui, de la belle province, et même, je vous dirais, du Canada. Il est connu dans le milieu de la finance, dans ce qu'ils aiment bien appeler, dans cet écosystème de la finance, messieurs, dames. Vous l'avez connu assurément comme directeur principal, oui, écoutez, de ce fonds d'investissement où ce qu'il gérait au-delà de 400 milliards de dollars, vous savez, à la caisse de dépôt et de placement, il y a pas mal d'argent là. Eh bien, lui, il avait réussi à concocter un 200 millions de dollars et vraiment le rendre à la disposition des citoyens, des citoyennes de la diversité. Messieurs, dames, aujourd'hui, il vient de démarrer ce fonds pour les entrepreneurs de la diversité. C'est avec une immense joie que nous recevons à Coconut Podcast, je dis bien, celui qui vient tout juste de quitter ses fonctions à la caisse de dépôt et de placement, là où il était directeur principal, aujourd'hui, on reçoit ce philanthrope, cet homme à partager son savoir en matière de finance. Messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast, j'en suis très fébrile, Monsieur Will Théagène.
Merci beaucoup, avec quel accueil! Je me sens choyé.
Ben là, je m'étouffe. Écoute, le fait de recevoir Wills Théagène à l'émission, tout un honneur que tu nous fais d'être avec nous. La question qu'on pose à tous nos invités en début d'entrevue, Wills, comment ça va?
Ça va super bien.
Ben là...
Puis chaque fois que j'ai l'opportunité de m'adresser à une audience, surtout des personnes issues de la diversité, ma communauté, la communauté haïtienne et d'autres, pour parler d'investissement, pour parler de financement, pour parler d'entrepreneuriat, je suis toujours super excité, super content. C'est ma mission.
Ben, cette ambition, nous autres, notre mission est de faire connaître les grandes personnalités de la diversité. T'en es toute une. Écoute, on a reçu monsieur le chancelier Franz Saint-Émy à l'émission, puis là on reçoit Wills Théagène. Écoute, il nous manque Maquital, puis on a gagné, ouais. Là, c'est tout, on a reçu le grand, tu sais, les grands argentiers du Québec, de la communauté noire.
Ça tombe bien, je suis un gros fan de Franz, puis je suis un gros fan de Maki. Maki travaillait à la caisse quand j'étais là.
Ah ben!
Maki était le numéro 2 à la caisse des dépôts pendant que j'étais à la caisse. C'est un homme extraordinaire.
Tu connais du monde important, on va se le dire demain.
Ouais, ouais.
Vite, vite, demain, Wills Théagène, on vient de faire en 30 secondes ton parcours qui est plus qu'incroyable. Habituellement, on la pose en fin d'entrevue, celle-là, cette question-là. Tu nous as dit que tu allais bien, on sent que tu es sapé comme jamais, comme Jaja, comme diraient nos frères et sœurs congolais, congolaises. À quand verra-t-on Wills Théagène sur l'arène politique ou dans l'arène politique? On t'écoute, ministre des Finances, successeur de monsieur le ministre Éric Girard ou dans les pas de monsieur Fitzgibbon. On t'écoute, Wills.
Je dois dire, Alain, en ce moment, cette aspiration-là n'existe pas en moi. Je te dirais ce qui existe en moi présentement, puis je te dirais qui m'allume. C'est vraiment cette vision de bâtir un écosystème au Québec, au Canada, d'entrepreneurs à succès, dans les communautés de la diversité, incluant la communauté noire, la mienne, Le jour où je vais être extrêmement heureux et même extatique, c'est la journée qu'on va pouvoir nommer des entreprises qui sont des équivalents de Google, d'Amazon.
Qui sont cotées à la bourse, là.
Cotées à la bourse.
OK, OK.
Qui emploient des milliers et des milliers de personnes. Et à leur tête, les fondateurs, les PDG, c'est des personnes issues de la diversité.
Okay.
La communauté noire, okay. Des minorités visibles, des femmes.
Ouais.
Et je dois avouer, encore plus, si ces gens-là sont dans la communauté noire, pour moi, c'est le septième ciel.
Ah ben, le summum.
Le summum, parce que l'univers de l'entrepreneuriat, c'est mon univers, mm-hmm. C'est ce que je connais. Mm-hmm. Puis je vois l'impact et la force de cet univers-là. Je vois l'impact et la force d'entreprises de taille capables de donner des emplois, capables de bâtir de la richesse, capables de permettre à nos communautés de la diversité de prendre leur place à l'échelle salariale, à l'échelle de la richesse au Québec et au Canada.
Alors, Wills, c'est intéressant que tu nous dises que toi, véritablement, ce qui est important pour toi, la politique, c'est même pas quelque chose que tu as envisagé parce que toi, tu veux vraiment créer de la richesse au sein des communautés de la diversité. En se préparant pour notre entrevue, on apprenait dans ce superbe article qui est paru il y a à peine quelques jours dans Le Devoir, grand quotidien de la belle province, qui disait que 98%, 99% même des portefeuilles qui passaient sous vos yeux étaient détenus par des Blancs, des Caucasiens. Puis là, en regardant ça, je me suis dit, ben là, on ne trouve pas de Sud-Asiatiques, on ne retrouve pas de Sud-Américains, latinos, comme on les appelle à Montréal, on ne retrouve pas d'Africains, sachant qu'il y a pas mal de grandes fortunes en Afrique nouvellement conçues, là, amassées dans les dernières décennies. Comment t'expliquerais très rapidement, avant qu'on apprenne à te connaître, parce qu'on est en plein dans le sujet, comment t'expliquerais le fait que les communautés ethnoculturelles, les gens de la diversité, même LGBTQ+, ne fassent pas partie de ce 98% ouais. qui te passait sous les yeux lorsque tu étais à ce fonds 25 à la 3, là, à la caisse de dépôt et de placement, on t'écoute?
Mais je te dirais, Alain, tu sais, c'est pour revenir sur la statistique, je le savais que ça allait être qu'est-ce que j'ai vu au niveau de la représentation. Mm-hmm. Mais en général, au niveau des portefeuilles, c'est facilement 9 entreprises sur 10, c'est des entrepreneurs blancs, right? Mm-hmm. Puis l'enjeu aussi, c'est quand on regarde l'argent qui va aux entrepreneurs de la diversité, puis aux fonds gérés par les entrepreneurs de la diversité, mm-hmm. bien, au niveau des fonds, c'est environ 1% de tout le capital investi en placement primaire capital de risque, surtout sous des gestionnaires de fonds de diversité qui est minime. Mm-hmm. Il y a trois enjeux majeurs. Puis je te dirais, la ligne directrice derrière cette vision-là d'aider les entrepreneurs issus de la diversité, c'est vraiment d'aider le Québec à utiliser la totalité de ses ressources. Parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs issus de la diversité qui sont bourrés de talent, qui ont un appétit de bâtir leur entreprise, mais à cause de trois enjeux, l'accès au capital, l'accès au réseau d'affaires et le manque d'accompagnement, ces trois enjeux-là font en sorte qu'ils ne sont pas capables de grossir leur entreprise aussi rapidement qu'ils devraient. Et ils ont de la difficulté à trouver de l'aide. Fait que moi, c'est vraiment ces trois enjeux-là que je vise à adresser. Puis c'est exactement ce que le fonds que j'avais à la CDPQ, mm-hmm. le fonds Équité 25 à la 3, c'est exactement ce qu'on faisait. Mais en gros, pour répondre à ta question, ça ne fait pas de sens pour le Québec de sous-utiliser ce talent-là.
Intéressant, intéressant. Maintenant, je me fais l'avocat du diable. Et on ne trouve pas beaucoup de gens issus de la diversité dans ce pan de la finance, hein? Les fonds d'investissement qu'on appelle. Il y en a qui vont te dire, Will Stéagen, oui, mais là, le monde de la diversité, vos jeunes, ils ne vont pas dans les domaines d'études qui leur permettraient d'accéder à cette connaissance afin de pouvoir créer un fonds en étant 4-5 collègues, partenaires. On va chercher quelques grands bailleurs de fonds. Tu nous expliqueras un peu la démarche. Mais c'est bien peut-être parce que nos jeunes ne s'y intéressent pas. Est-ce que tu aurais quelque chose à répondre à ceux qui te rétorqueraient La réponse.
Ta question me fait penser à deux éléments que j'entends très, très, très souvent. C'est que quand on parle des personnes issues de la diversité, dans l'entrepreneuriat, ou même dans les entreprises, dans les postes de cadre, ce qui revient souvent, Alain, c'est on n'en trouve pas. Ça, je l'entends tout le temps. Puis, le on n'en trouve pas sous-entend qu'il y a un manque de compétences. Moi, ce que je réponds tout le temps, c'est assez simple. Moi, dans mon univers de personnes issues de la diversité de la communauté noire, juste dans ma communauté, là, des Franz Saint-Élémy, des Dominique Anglade, des Madeleine Fekir, t'en connais combien?
Madame la consul, là, on va.
Madeleine Fekir, la consul, parmi les jeunes, bon, je vais nommer Carla Beauvais et bien d'autres. Écoute, Alain, je peux en nommer 2000. Fait que moi, quand j'entends, on n'en trouve pas. Comment tu peux pas en trouver quand je connais plein? Fait que premièrement, l'enjeu de dire qu'on n'en trouve pas parce qu'on n'a pas les compétences, c'est tout à fait faux. Les gens compétents, moi, toi aussi, dans nos communautés, il en existe plein. Pas juste chez les Noirs, chez les minorités visibles, il y en a plein. Fait que ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est nos communautés de la diversité, on a besoin de gens d'influence qui vont nous faire confiance puis qui vont nous faire monter dans les organisations.
Tout à fait.
C'est ça qui n'arrive pas. C'est pour ça, quand tu regardes la représentation des gens, des communautés de la diversité, dans les postes de cadre, que ce soit dans les corporations, dans les institutions ou même dans les entités gouvernementales, il y a un manque de représentation. Mais c'est parce que les gens ne nous donnent pas notre place. Puis je vais te donner un exemple très, très simple. Moi, quand j'étais à la Caisse de dépôt, j'ai constaté qu'au niveau des analystes de la communauté de la diversité, il fallait continuer à faire un travail pour être encore meilleur, parce que la caisse, pour elle, c'était important. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé des analystes de la diversité comme stagiaires, Alain. Ils ont commencé avec moi comme stagiaires. Je les ai coachés. Ils ont fait plusieurs stages. Puis je suis heureux de dire maintenant, certains d'entre eux sont analystes, right?
Incroyable.
Oui, parce qu'il faut, que tu fasses la place. Puis le vocabulaire, tu sais, quand j'entends on n'en trouve pas, puis on n'en a pas, faut que les gens arrêtent de nous dire ça. Okay. Parce que c'est faux. On est bourré de gens talentueux et compétents.
Ben, t'es quasiment l'exemple parfait. Ouais, mais là, ils n'ont peut-être pas fait des études dans ce domaine-là. Coconut Podcast, en faisant leur recherche pour cette grande entrevue, on sait que tu as fait des études en ingénierie. Par la suite, tu vas aller quand même à McGill faire un MBA dans la langue de Shakespeare. Hein? C'est quand même. Puis là, on regardait, on dit, ouais, mais un MBA, il me semble s'il avait fait un CFA, peut-être serait plus proche du monde de la finance. Quelle a été cette âme charitable qui t'a peut-être un peu orienté vers ce monde de la finance? Est-ce que c'est papa ou les dames Sarah que tu voyais en Haïti qui étaient ces grandes entrepreneuses du peuple? Puis toi, tu t'es dit, le jour que j'aurai acquis suffisamment de connaissances, je vais me lancer en entrepreneuriat, parce que tu commences à Hydro-Québec, par la suite Bombardier, puis tranquillement, pas vite, tu vas commencer à cofonder des sociétés.
Exact.
Ça, c'est intéressant. Ouais. On aimerait t'entendre, Wilson.
Ben, je te dirais, Alain, j'ai eu trois personnes d'influence dans ma vie, dans ma carrière. Dans ma vie puis dans ma carrière, j'ai eu trois personnes.
On essaie Birch, la guerre, ça se peut-tu, Thomas.
Ben, je te dirais, parmi les trois, il y a deux personnes réelles puis une personne virtuelle.
Okay. Okay.
Bon, au niveau, je te dirais, puis tu as mentionné, Alain, que j'ai fait un MBA. Moi, dans mon parcours, ce que j'ai fait, c'est un baccalauréat en génie chimique à l'École polytechnique. J'ai fait un DSS en gestion à l'Université McGill avec option finance. Ça, c'est l'équivalent à peu près d'une année d'MBA. Mais après, j'ai fait une maîtrise en finance, en finance appliquée à l'UQAM. Fait qu'au lieu de faire un MBA, j'ai fait une maîtrise en finance parce que j'étais un passionné de la finance. Mais les trois personnes d'influence, ça a été, la première, c'est ma mère, bien sûr, parce que ma mère insistait beaucoup sur l'éducation. Puis ma mère était haïtienne, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Fait que quand j'étais jeune, elle m'a toujours dit, tu dois aller à l'école, tu dois aller à l'université. Mais pour ma mère, il y a juste trois métiers qui existaient, qui valaient la peine, comme tout bonne haïtienne. Médecin, avocat, ingénieur. J'ai horreur du sang. J'aime pas le droit, il restait juste le génie.
Le béton.
Il restait juste le génie. Puis quand je suis entré à Polytechnique, après un an, je me suis rendu compte que j'aimais pas les génies.
Là, tu l'as fini pour ma mère.
Pour ma mère. Parce que je l'ai fini pour ma mère et pour l'orgueil. Parce que quand je suis entré à Poly, on était 1000. Puis là, ils nous ont mis dans l'auditorium, puis ils nous ont dit, vous êtes 1000 aujourd'hui, dans un an, ils vont rester 500. Puis ça m'a tellement insulté quand ils m'ont dit ça. J'ai dit, ils vont pas me mettre à la porte.
Okay.
Fait que malgré la première année, je savais que c'était pas pour moi, j'ai fini. Mm-hmm. Puis quand j'ai fini le génie, j'étais content parce que je le devais pour ma mère.
Ouais, ouais.
Mais après ça, je me suis dit, il faut que je fasse ce que j'aime.
On voit que t'as une petite larme, c'est-tu pour ta mère?
Parce que parce que c'est sa fête hier, puis il est décédé l'année dernière.
Ok, ok. Ouais. Oh, ben,
bon, merci. Puis la deuxième personne qui m'a influencé virtuel, c'est un homme qui s'appelle Reginald Lewis. Reginald Lewis, c'est un Américain qui a été reconnu comme le premier noir milliardaire aux États-Unis dans le monde des affaires. Il est né aux États-Unis, il joue au football, c'est un gars extrêmement brillant qui venait d'une famille très modeste. Il a reçu une bourse pour aller à Harvard, il a étudié en droit à Harvard, il est devenu avocat corporatif en business.
Ouais, ouais.
Puis après, il a fondé sa firme, puis il a acheté une grosse compagnie qui s'appelait Beatrice Food. Ça a été une des premières grandes transactions d'un homme noir aux États-Unis. Puis j'ai lu ce livre-là quand j'étais dans la vingtaine, je me suis dit, il faut que je devienne entrepreneur.
C'est la mouche, c'est
ça. Ça, j'ai dit, il fallait que je devienne entrepreneur. La troisième personne qui a une influence énorme, c'est, comme tu l'as mentionné, Tom Burch, qui est le vice-président capital de risque et technologie à la FedEx.
Il va t'aider à fonder ton...
C'est grâce à Tom que ça existe.
Ton 200 millions de fonds d'investissement.
250 millions, là. Parce que ça faisait... J'ai passé 6 ans à la Caisse de dépôt. Après la troisième année, depuis la première année, je me suis dit, comment je vais faire pour aider ma communauté avec cette super plateforme de 420 milliards? Malheureusement, le décès de George Floyd est arrivé en 2020. Heureusement, ça m'a donné l'idée de dire il faut bâtir un fonds.
Tu t'es approché les petits patrons.
Oui, j'ai appelé Tom. La première fois que j'ai appelé, c'est Tom. J'ai une idée. On va partir un fonds de 250 millions pour les entrepreneurs de la diversité et les entrepreneurs noirs. Il m'a dit, Wills, très bonne idée, prépare ta présentation. J'ai passé un mois à préparer une présentation. On est allé voir Charles Lemond, PDG, qui est un homme visionnaire, qui a tout de suite supporté cette vision-là.
Tu avais une collègue aussi là, qui était.
Barbara Boucher, oui, qui a travaillé avec nous aussi. Puis Alain, écoute, on a lancé ce fonds-là. Ça a été. Pour ma vie, là, ça a été game changer. Je vais juste te donner un exemple de ce que j'ai vécu. Puis je me souviens, Barbara, c'est une femme haïtienne qui est en charge, elle est avocate de formation, puis elle est dans le département juridique de la CDPQ, puis elle s'occupe de tous les produits dérivés.
Okay,
et Barbara est venue m'aider pour partir le fond. Je me souviens, on était pendant la COVID, on a des entrepreneurs noirs qui nous ont appelés, dont certains haïtiens et d'autres.
Mais
plusieurs entrepreneurs ont dit, mais je me souviens, là, on a un appel avec un entrepreneur noir. C'est pendant la COVID, donc c'est virtuel.
Bien sûr.
L'entrepreneur, il s'en vient rencontrer la Caisse de dépôt virtuelle. Il est nerveux. Il ouvre le crâne, il voit moi et Barbara, deux haïtiens.
Comme...
Il nous regarde pendant comme 10 minutes, stupéfait.
C'est-tu...
C'est quand... Il a commencé à pleurer quasiment. Puis là, il s'est waouh. Et puis là, ils ont dit, je suis tellement content. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne vais pas être jugé par ma couleur.
T'as de l'eau dans
les... Non, mais c'était incroyable.
Émouvant.
Le gars me dit ça, là, on est comme...
Okay.
Puis là, ça m'a fait réaliser deux choses. C'est que les entrepreneurs qui sont issus de la diversité ont besoin d'être écoutés, ont besoin de savoir que les gens vont les écouter pour leur entreprise, pas pour leur couleur ou avec des préjugés. Puis deuxièmement, ça m'a fait réaliser une deuxième chose que les entrepreneurs nous ont dit, que tous les gens de la diversité, comme toi et moi, on vit, c'est... On a toujours le poids de la communauté sur nos épaules parce qu'on se dit, je ne peux pas échouer. Si moi, j'échoue à la Caisse de dépôt, le prochain, quand est-ce qu'il va avoir sa chance?
Ben, c'est ça.
Mon
quand
tous,
on a le podcast, on ne peut pas échouer.
Mais ça, nous, on porte ce fardeau-là.
C'est quelque chose.
Mais c'est lourd comme fardeau de dire que tu ne peux pas échouer. Parce qu'on a tous le droit d'échouer. Mais c'est parce que notre écosystème n'est pas encore à parité. Puis il y a un manque de représentation. Puis c'est ça qu'il faut attaquer. Puis un autre point, Alain, vu que tu ouvres la porte, il faut bâtir des entreprises à succès. Nos jeunes ont besoin de références, ont besoin de succès. Puis,
quand tu parles d'entreprise à succès, il faut viser les nouveaux domaines qui sont porteurs.
Il faut, je veux dire, c'est qu'il faut tout viser dans le sens que domaine, des offres de services, des offres de produits, mais il faut aller chercher de la taille. Parce que les entreprises, ils ont énormément d'impact quand il y a une taille, quand ils emploient beaucoup de gens. Ce soit dans l'univers du OBNL ou du à-profit, il faut bâtir des entreprises de taille qui sont pérennes. C'est sûr que dans l'univers des OBNL, c'est beaucoup un univers où à chaque année, tu dois aller chercher des subventions, c'est difficile. Par contre,
on parle des OBNL, tu dis, on l'a vu dans l'article du Devoir, qu'il y a peut-être un peu trop d'OBNL.
Il y en a beaucoup.
Puis,
tu sais, j'ai une admiration énorme pour des gens qui partent des OBNL puis qui ont une conscience sociale de faire du bien, j'admets. En même temps, je trouve qu'il y en a beaucoup dans notre communauté, beaucoup. Fait que j'encourage beaucoup les gens, pas à arrêter, mais d'avoir d'autres modèles aussi d'affaires pour qu'on ait une chaîne complète. Parce que ce qu'on ne veut pas non plus, c'est quand on approche des investisseurs, que 9 fois sur 10, ils s'attendent à avoir un OBNL. Je ne pense pas que c'est le reflet non plus de ce qu'on veut.
Tu veux vraiment, tu sais, c'est incroyable, tu as cette volonté pour la communauté montréalaise, québécoise, canadienne, issue de la diversité, qui soient les prochains Google, qui soient les prochains Amazon, Bezos, qui soient les prochains Zuckerberg,
exact,
Facebook,
exact.
Instagram, pour que cela puisse arriver. Parce qu'on sait que souvent, les gens issus de certaines communautés de la diversité sont orientés vers les sciences sociales,
ouais.
Jadis. Ça commence à changer. Est-ce que tu es en train de travailler parallèlement à ton nouveau fonds?
Oui.
On parle de 70 millions là, déjà là, qui
ouais.
sont en train d'être colligés, si on peut le dire
ouais.
ainsi. Est-ce que tu as pensé à mettre sur pied... On sait que tu es à la Citadelle,
oui,
hein, fondée par Carla Beauvais,
oui.
la grande Carla.
Oui.
C'est incroyable. Est-ce que tu as pensé à un incubateur?
Absolument.
Pour amener ces jeunes à penser, OK, c'est quoi la prochaine application qui va fonctionner? Qu'est-ce qu'on a de besoin au Québec qui
mm-hmm.
manque au niveau technologique? On a l'intelligence artificielle qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on peut amener comme... élément qui va contribuer, puis là on parle d'entreprise dans la tech, là, tu sais,
ouais.
quand même quasiment une mini Silicon Valley aux abords de
exact.
La citadelle de Saint-Laurent. On t'écoute.
Mais j'allais dire que, en fait, la chaîne de financement
mm-hmm.
dans l'écosystème des entrepreneurs qui sont de la diversité, minorités visibles, autochtones,
mm-hmm.
femmes, je te dirais la chaîne de financement est à améliorer parce qu'il y a des trous. Mais je te dirais plus spécifiquement, la chaîne de financement pour les entrepreneurs noirs est vraiment complètement à retravailler. Parce qu'il y a vraiment des méga obstacles. Il n'y a pas assez d'argent en démarrage et en pré-démarrage. Il n'y a pas assez d'incubateurs. Il n'y a pas assez d'argent en croissance. Il n'y a pas assez de fonds d'investissement gérés par des gens de la communauté noire. Cet écosystème-là, je suis en train de faire le travail. Là,
BKA.
Mais c'est à revoir. BKA Capital.
Ouais,
c'est un excellent fonds de technologie
de
démarrage.
Deux noirs.
Oui,
là,
dans lesquels j'avais investi avec, dans BKA mm-hmm. avec le fonds de la caisse. C'est Lise et Isaac.
Ouais,
deux personnes exceptionnelles.
Mm-hmm.
Mais Alain au Canada, c'est le seul fonds. C'est pas normal. Il y a juste un fonds de démarrage en technologie au Canada, c'est BKA. Le seul. Ça fait pas de sens.
Le gouvernement ne peut pas vraiment intervenir en ce sens?
Oui, ou... le gouvernement peut intervenir, mais encore là, l'enjeu, Alain, c'est qu'entre nous, les joueurs de l'écosystème, il faut s'asseoir puis proposer au gouvernement une stratégie qui fait du sens. Parce que je pense que le premier volet de cette stratégie était beaucoup du financement sous forme de prêt
ouais.
en démarrage. Puis l'enjeu, c'est que les entrepreneurs ne trouvent pas d'équité.
Donc,
il faut régler ce problème-là. Parce que nos entrepreneurs sont très endettés. C'est difficile de grossir une entreprise quand tu as beaucoup de dettes.
Difficile de construire une entreprise quand il y a beaucoup de dettes. Tu quittes la caisse de dépôt et de placement décembre 2023,
fait,
grosso
ouais.
modo. Il
ouais.
faut quand même beaucoup de courage de laisser un job avec un point en or comme on peut le penser nous autres. Tu arrives avec ce fonds de 70 millions.
En fait, je vise 250, Alain.
250?
Ouais.
Oh, c'est vrai, toi, tu vises...
Ouais.
Universe is the limit, monsieur Théagène.
Honnêtement, je vise 500, mais je vais être plus modeste.
Donc là, vraiment, pour y arriver, on a effleuré cette idée d'un incubateur parce que le travail que tu fais aujourd'hui, on sent que tu sors des blocs. T'es vraiment là, sur le plancher des vaches. Tu viens faire un travail de pédagogie. Est-ce que c'est ton nouveau cheval de bataille tout en amassant ces fonds pour pouvoir les redistribuer, investir sur certains entrepreneurs, entrepreneuses des communautés de la diversité? Est-ce que tu vas véritablement, dans les mois à venir, développer parallèlement des séances d'information, de formation, je te dirais, et même où est-ce que tu mets les jeunes en action afin qu'ils puissent faire émerger l'idée de demain qui sera le LEDARTEC
ouais.
Des jeunes ou des moins jeunes également. De demain, là, on t'écoute.
Un bel exemple. Oui, mais je te dirais, depuis... le travail que j'ai fait avec le fonds Équité 25 à la toi que j'avais à la CDPQ, j'ai toujours pris le temps d'aider les entrepreneurs. Par exemple, quand j'avais mon fonds, l'investissement minimum était de 5 millions. Mais souvent, j'ai des entrepreneurs qui venaient me voir, qui avaient 100 000, 200 000 de revenus, puis qui cherchaient 100 000 $ d'investissement. Mais je passais une heure avec eux pour les éduquer. Fait que pour moi, le volet éducation est extrêmement important. Puis
Ce que je m'apprête à faire d'ici le lancement de mon fonds en 2024, c'est vraiment passer du temps dans le coaching, la formation. Puis on a un événement qui s'en vient le 28 mars à la Citadelle, justement, pour faire de la formation, du coaching, donner de l'accompagnement, mais beaucoup le volet formation, parce que nos entrepreneurs sont jeunes. Il faut les aider avec l'accompagnement. Fait que je vais passer beaucoup de temps à faire ça.
On voit que ce nom revient depuis quelques mois dans l'espace médiatique montréalais québécois, la Citadelle, le 8557 boulevard Saint-Laurent, sur 4 étages. Ouais. C'est quoi cette histoire-là? Rapidement, en 20 secondes.
Ben, moi, je dois dire, je suis très excité parce que j'ai rencontré Carla Bouvet l'année dernière.
Okay.
C'est une personne que j'ai trouvé tout à fait exceptionnelle par sa vision, son énergie, son leadership. Après, j'ai rencontré le reste de l'équipe, Marjorie Morin, Alex Souffrant, Trendom Ismaël et tout ça. Puis je suis devenu contaminé par leur énergie, par leur vision. Okay. Puis comme tu viens de dire, les gens doivent venir ici à la Citadelle. C'est un endroit extraordinaire, une fierté pour la communauté. Puis c'est une base qu'on veut qu'il soit le noyau même des activités de la communauté noire au Québec et au Canada. Puis je te dirais, le mot d'ordre de toute la vision des gens derrière la Citadelle, c'est bâtir et célébrer le succès de la communauté noire.
Écoute, hein, bien quand même, main, ça parle. Puis nous, on a nos petites oreilles, tu sais, Coconut, on a des oreilles un peu partout, qui nous disent que... T'es à la recherche d'un nom pour le fonds 70 millions, 250 millions, 500 millions pour la diversité. Notre petite oreille nous a dit que ça serait peut-être un nom que vous êtes en train de considérer là, multiples noms.
Tu m'as inspiré. Deux grands primaires aujourd'hui. J'annonce un fonds que je veux lever 500 millions, au minimum 250.
C'est
ça va s'appeler Citadelle Capital.
C'est bon. Ah,
grâce à Alain.
Ah, bonjour. Ben, grâce à Carlos.
Oui, grâce à Carlos. Oui,
puis
à
Alex.
Oui.
Hein?
C'est bon.
Ben, félicitations, Alex, en passant. Monsieur Alex. Tout un travail au niveau de l'aménagement de la place. On invite les auditrices et auditeurs à venir voir la Citadelle. Prenez rendez-vous et vraiment, Carla, la directrice générale adjointe, Pamela, vous fera faire un tour incroyable. Will Stéagène, là, tu nous as parlé de chiffres qui sont ahurissants. Pour pouvoir frayer ton chemin, on est en plein mois de l'histoire des Noirs. En une minute, ça va être des questions pas mal en rafale. En une minute, Will Stéagène, quelle est la plus grande difficulté au niveau de l'intégration professionnelle pour un homme noir dans ce monde très tricoté, serré, qui est celui de la finance en Amérique du Nord, là, je te dirais.
Écoute, moi, selon mon expérience, je peux te dire, la liste est tellement longue que je ne peux pas les nommer. Je peux te dire une chose, par contre.
T'as-tu vécu du racisme?
Absolument. J'ai tout vécu, Alain. J'ai tout vécu. Je te dirais ce qui me motive beaucoup.
T'es encore debout, là.
Oui, mais je te dirais ce qui me motive, c'est de me dire, le travail que je fais, le travail qu'on fait tous, va aider des gens comme mon garçon et mes familles, tes enfants, à avoir un chemin plus facile. Mais moi, je te dirais, il y a une chose qui m'a marqué dans ma vie. C'est ma mère. Ma mère m'a toujours dit que t'es le plus intelligent, t'es capable. Fait que dans mon cerveau, il n'y a jamais de limite. N'importe où que je suis. Okay. C'est pour ça que quand j'ai eu l'idée de ce fonds-là à la caisse, plusieurs personnes me disaient que jamais ça allait arriver. Mais mon cerveau fonctionne d'une façon qu'il n'y a jamais de limite nulle part. Puis c'est une journée à la fois, un obstacle à la fois. Mais je ne vois jamais les obstacles. Je ne les vois pas. Pour moi, les obstacles n'existent pas. On a une vision, on exécute. Puis il va avoir un output. Est-ce que l'output est ce qu'on aurait souhaité? Des fois oui, des fois non. Mais il y a une vision, right? Fait que moi, là, depuis mon enfance, fait que j'ai eu tellement d'échecs dans ma vie, Alain. Je pourrais passer 4 jours à te nommer des échecs. Mais honnêtement, à chaque fois, les échecs m'ont fait grandir. À chaque fois, j'ai appris quelque chose. Mais je te dirais, la chose qui est en moi, c'est vraiment la confiance de ma mère. Ma mère est tout le temps avec moi. Cette confiance-là fait en sorte que quand les choses vont mal, quand j'ai des échecs, je me lève le lendemain, j'ai tout oublié, puis let's go, je suis capable.
Tu nous parles de maman, une minute encore. Tu as maman comme grande femme dans ta vie, mais tu as ce socle, ce poteau mitant qui te prépare tes petits lunchs puis qui te met tes petits cachous dans un sac Ziploc là, madame t'es à gêne, si on peut l'appeler par ton nom de famille, elle doit être vraiment d'un support incroyable dans cette quête qui a été la tienne dans ce monde de la finance. On t'écoute très rapidement.
Ben écoute, tu ouvres une autre porte que je trouve extrêmement importante. C'est que moi, j'ai la chance d'avoir une épouse extraordinaire. C'est Madame Perret, son nom.
Okay.
Ça fait 32 ans qu'on est ensemble.
Wow.
On a un garçon.
Wow.
Mais je te dirais, moi, j'ai eu un modèle de deux parents ensemble qui ont bâti une famille. Mm-hmm. Puis moi, c'était mon modèle. Puis je te dirais, pour moi, c'était important parce qu'en grandissant, j'ai constaté le nombre de femmes de notre communauté, mm-hmm. le nombre de femmes noires, monoparentales. Mm-hmm. À quel point que ces femmes-là, c'est difficile. À quel point que ce sont des superwomen. Ils sont PDG de la maison, PDG des enfants, PDG autre. Tu sais. Puis je me dis, pour les jeunes enfants de notre communauté, mm-hmm. ils doivent avoir des modèles. Mm-hmm. Puis je sais, pour moi, ça, la stabilité du couple, la stabilité familiale pour mon enfant, pour ma communauté, c'est important. Fait que j'ai toujours fait des choix pour avoir des personnes qui sont avec moi. Puis ma femme est professeure, c'est une femme extraordinaire, fait que je suis vraiment chanceux.
Ben, professeure comme
toi.
Excellent. Puis ce qui est intéressant, que pas mal tout le monde doit se poser, est-ce que le regard de madame a changé à ton égard lorsqu'elle a commencé à voir que son petit Wills commençait à rentrer des six chiffres pas mal, puis bien des zéros après, là, à la maison? Est-ce que tu sens que son attitude à ton égard, son regard a changé, à t'apporter davantage tes plats au lit?
Alain,
t'écoutes. Ben...
On dirait plus mon statut social augmentait, l'inverse arrivait. Moi, j'avais le pouvoir chez moi. Puis c'était. Mais ma femme, elle a un franc-parler.
OK, OK.
Quand elle a des choses à me dire, il n'y a pas de gants blancs. Là.
C'est bon, ça c'est cool,
des fois, ça,
ça
prend une journée à m'en remettre. Là.
OK.
Fait que non, chez
elle
moi...
Elle a les deux pieds sur terre.
Ah oui!
Puis, tu nous as parlé, tu as un enfant avec madame, un garçon, 21 ans.
Oui.
Le fait d'avoir un père qui a réussi dans un milieu que très peu des gens de la communauté de ton fils n'ont pas réussi à accéder à ces échelons. Quel est le regard de ton fils? Est-ce que des fois, il dit, hey, tu es un petit brou, tu pars pour un autre? Ou, tu sais, je ne sais pas. Là,
je pense que c'est comme tous les enfants.
Ouais,
là.
Okay.
Des fois, ils me trouvent moyen. D'autres fois, ils me trouvent complètement dépassé. Peut-être 1% du temps, ils disent, OK.
Mais ils reconnaissent le travail. Ils reconnaissent un peu.
Je sais pas, je me suis pas
beaucoup... une grande personnalité au Québec.
Je ne me suis pas beaucoup attardé à ça avec lui. Je te dirais, je me considère extrêmement chanceux parce que c'est un garçon que je trouve tout à fait extraordinaire, intelligent, qui est sûr de lui.
Okay, super.
Puis c'est un garçon qui s'entoure d'amis qui sont géniaux. Mais je te dirais avant tout, j'ai retenu une leçon de mes parents. Pendant très très longtemps, je ne savais pas ce que je voulais faire. Pendant très très longtemps, j'ai eu des échecs. Mm-hmm. Mes parents ont toujours, m'ont toujours encouragé. Même quand je suis entré à Polytechnique, je n'aimais pas le génie. Au début, ça n'allait pas très bien. Ma mère m'a jamais dit « Ah, ça va pas bien, tu devrais changer. » Elle a toujours fait confiance. Yeah. Puis je me suis dit avec mon fils, parce que c'est facile comme parent de dire « Je veux que tu sois médecin. » Je me suis dit « Back off. Utilise ta propre histoire. Laisse-le faire son chemin. Laisse-le faire ses choix. » Parce que Alain, sérieusement, là, demander à quelqu'un de 20 ans de savoir ce qu'il fait dans la vie. 20 ans, c'est jeune. Moi, j'ai su vraiment ce que je voulais. Je pense que j'avais presque 40 ans.
Mais la relève entrepreneuriale, tu as cofondé des entreprises, tu participes comme associé dans différents projets, tu as des investissements qui sont faits. Là. Est-ce que tu aimerais voir ton fils suivre un peu tes pas? Question du moins, est-ce que tu fais son éducation financière?
Absolument. Mon fils, je pense qu'à l'âge de 12 ans, il a commencé à acheter des actions à la bourse. Oui. Parce que moi, j'ai toujours eu comme vision de... Mes parents m'ont donné énormément d'amour.
Qu'est-ce
un foyer, de la nourriture. Mais mon fils, pour moi, c'est the next. Mon fils, j'ai toujours dit, c'est the total package, right? Des parents stables, une bonne éducation, l'éducation financière que nous, on n'a pas eu beaucoup dans la communauté haïtienne, surtout la première génération. Mais mon fils, depuis l'âge de 12 ans, là, il achète...
Sens-tu la pression? Bronny James
qui
est le fils de LeBron?
Je te dirais, le seul point où que moi et sa mère, on est extrêmement exigeants et non négociables, c'est l'éducation. Fait que nous, on ne vient pas nous dire là, que...
Pas de bobine.
Le minimum, c'est un bac. Fait que ça, c'est non négociable. Non négociable. Après, le reste, il y a plus de flexibilité. Mais sur l'éducation, il n'y a aucune, aucune négociation. Il a déjà essayé.
Mais parce que vous avez fait pas mal d'efforts, puis comme tout bon parent haïtien, vous lui donnez un support à la mesure de vos moyens pour qu'il réussisse ce but qui est le même chez nous. Là.
Mais Alain, mon fils n'a aucune idée de ma réalité. Moi, je suis né dans une famille de 8. Jusqu'à, je me demandais jusqu'à l'âge de 9 ans ou 8 ans, je dormais dans la même chambre que mes 5 frères. Je prenais le linge de mes frères, je n'avais pas mon propre linge.
Ça.
Oui. Mon fils est fils unique, il n'a aucune idée. C'est quoi? Quand tu es dans une famille de 8, là, le mot d'ordre, c'est concession, 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 concession.
Tu sais, là, on laisse un peu le milieu de la finance, parce que je pense que c'est des questions qui intéressent. Tu viens d'une famille, tu sais, quand même nombreuse.
Ouais.
Ton fils, il a vécu un peu plus dans Watt.
Oui, exact.
Est-ce que lorsqu'il arrive chez des membres de la famille, des tatis, des cousins, des cousines, qui sont peut-être moins en moyen que vous autres, là, les Théagens et Wills, là, on va dire de même, puis Perrin, les Perrin et Théagens, on va le dire comme ça. Ils font pas de jaloux, nous autres. Est-ce qu'il a un regard de dédain? Ah, ben, ils sont donc bien malheureux, ceux-là. Moi, je ne reste pas là, papa. On s'en va, on s'en va. Ou il est, comme son père, super à l'aise dans tous les milieux. Est-ce que tu as réussi
ça, Oui, c'est une qualité que j'aime beaucoup chez lui. Tu le rencontres, là, c'est un jeune garçon très, très humble. Tu ne sauras jamais.
Ça, on sent l'amour quand tu as pour ton
fils. Non, mais il est génial. Mais tu sais, Alain,
c'est cool, ça.
C'est quelqu'un qui n'aime pas dépenser de l'argent.
Okay.
Il est très, très, très humble. Puis mon fils, pas pour le vanter, mais au football, il était sur l'équipe du Canada. À un moment donné...
Est-ce que papa a été contre le football?
Oui, moi aussi.
Tu avais joué au football?
Oui, mais au football américain.
Ah, ouais.
J'ai joué en France.
Ouais, c'est ça.
Mais mon fils, à l'âge de 17 ans, était parmi les deux meilleurs running backs au Canada. Ouais. Puis il a été au Collège Notre-Dame. C'était le MVP du collège. Fait que c'est un excellent joueur de football. Puis, mais à le rencontrer, tu vas avoir aucune idée parce qu'il n'en parle pas.
Il n'est pas pété de boulot.
Non, très, très humble. Un jeune garçon très, très bien balancé. On est très contents.
Ah, ben ça, on est content d'apprendre ça, Wills, parce que, tu sais, des fois, on dit cordonnier mal chaussé. Tu prêches pour que les jeunes dans la communauté soient proactifs, s'intéressent à la finance. Le fait de savoir que ton fils s'intéressait déjà aux actions à l'âge de 12 ans, écoute, moi, je sais monter des situations d'apprentissage et d'évaluation, des SAE.
Ouais.
Je pense qu'on va en monter, puis on va même appliquer à CSSDM auprès du ministère de l'Éducation pour faire des formations en ce sens auprès de nos jeunes dans les quartiers.
Essentiel.
Je te le dis, là, moi, c'est le coup de pouce qu'un coconut, on va te donner.
Bien, ça va me faire plaisir. Ouais, parce que faut éduquer les jeunes sur la gestion du crédit et aussi la gestion du patrimoine. C'est les deux éléments, surtout dans nos communautés de la diversité, c'est non présent.
Comment se fait-il qu'il n'y avait pas d'éducation financière dans les communautés culturelles, du moins, je vais dire, dans la communauté noire?
Mais je te dirais, la communauté noire au Québec et au Canada, c'est une communauté qui est jeune. Mes parents sont arrivés d'Haïti, ils n'avaient aucune connaissance, Alain, du crédit et de l'investissement.
C'est une belle réponse.
Puis moi, je l'ai appris, mais après, c'est notre devoir, nous, de le passer aux autres. Tu sais, quand tu regardes souvent le jeune Québécois, là, mais ses parents, c'est pas l'école qui lui a appris là, comment gérer son crédit, comment gérer l'investissement. C'est ses parents.
Ouais, c'est ses parents.
Tu t'assois avec l'enfant et tu lui expliques.
Ouais, ouais.
Puis moi, j'ai fait ça avec mon fils. Là. Dès l'âge de 12 ans, j'ai ouvert son compte de banque. Je lui ai expliqué, il y avait sa carte de guichet.
Okay.
Puis après ça, on a commencé à acheter des stocks. Mm-hmm. Fait que dans son CELI. Fait qu'il y avait son CELI, puis là, il achetait des stocks, puis je lui ai expliqué.
Quelqu'un qui veut devenir. Hein? Comment on dit ça? Investisseur pour les fonds d'investissement.
Ouais.
On va dire ça de même. Expert.
Oui.
Quel est le chemin, la route que. Tu suggérerais à cette personne-là. T'sais, on t'entendait parler en pré-entrevue avec Tracy, l'une des responsables à la Citadelle, puis elle avait de l'air à penser à MBA, puis elle était là comme « Ah ouais, si tu peux, vas-y, ça va t'ouvrir des portes. » Toi, quel CFA, CPA, qu'est-ce que le jeune devrait faire pour pouvoir partir un fonds d'investissement, on va y aller demain.
Je te dirais, pour le fonds d'investissement, il y a une route très, très précise qu'on pourra parler, Alain, parce que c'est une conversation qui...
On va te réinviter.
Ça ne peut pas se dire en deux minutes. Mais je te dirais, moi, j'encourage beaucoup les jeunes quel que soit le champ d'intérêt, allez vous chercher un bac. C'est très important. Okay. Pour, pas juste pour la connaissance, c'est pour le réseau aussi. Bien parce sûr. Que les gens qui sont avec vous, c'est ces gens-là plus tard sont les entreprises. Ça, c'est, je te dirais, c'est l'élément numéro un. Puis si vous avez de l'appétit et de l'intérêt pour l'investissement, je vous dirais en investissement, ma seule suggestion, c'est un univers où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bullshit, malheureusement. On entend souvent des histoires de crypto-monnaie, de bitcoin. Mm-hmm. Tout, souvent, en investissement, ce qu'on entend qui est populaire, il faut rester très loin. En investissement, il y a un fondamental de connaissances qu'il faut maîtriser pour être capable de bien faire les choses. Après ça, le reste, malheureusement, je te dirais, quand je consulte les réseaux sociaux ou que je regarde différentes émissions, je te dirais, probablement 70% de ce que j'entends, c'est du n'importe quoi. Malheureusement. Puis là, les gens mettent ils investissent, puis je vois les gens prendre des décisions avec leur argent dans des choses qui sont tout à fait n'importe quoi, qui n'ont aucune substance.
Ouais, mais tu sais, quand tu as des Lacroix qui ont fraudé
du monde. C'est ça, exact. Puis...
Mais
tu as vu aussi la crypto-monnaie que ça a donné, le nombre de personnes qui ont perdu de l'argent, ou tu vois des compagnies publiques que les gens achètent des actions puis après ils perdent 80% de l'argent qu'ils ont mis. Mais il faut s'éduquer, il faut comprendre.
Ben, toi, tu avais choisi cette voie, ces investissements dits, c'est comme fonds verts quasiment, ouais. Comme avec une bonne conscience sociale.
Ouais.
C'est intéressant ça aussi quand même.
En fait, Alain, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai toujours été authentique à qui je suis.
Ouais, c'est ça.
Mes origines, c'est toujours, c'est toujours, je te dirais, l'origine de... Puis les valeurs, c'est toujours...
T'as jamais oublié tes origines de quoi,
non,
des
bouquets? Oh, non, jamais. C'est trop, c'est en moi. C'est
quand Wycliffe le chante, quoi, ouais.
Ça vient de mes parents, c'est en moi. Puis je te dirais, c'est beaucoup... Faire attention aux gens, respecter les gens, bien traiter les gens, ça c'est comme
tu
ça.
Tu as eu le temps de gâter ta famille? Tu as eu le temps de gâter tes parents?
Ben oui, ben, à ma façon. Oui, tu sais, je pense qu'il ne faut pas oublier que moi, mes parents, mon père et ma mère est décédé en 86, mon père est en 87. Fait, pendant longtemps, je bâtissais ma carrière. Ouais. Tu sais, mais c'est deux personnes pour qui j'ai énormément d'admiration.
Est-ce qu'il y a des tatis qui sont là?
Oh oui, on a une grosse famille. Ouais, tout le monde est présent. On a une famille proche. Puis moi, mon objectif, c'est vraiment...
Ou pas oublier personne parce que tu es devenu cet homme très successful.
Mais Alain, je ne me vois pas comme ça. Je ne me vois pas comme un homme successful. Okay. Je te dirais, je me vois comme quelqu'un qui travaille très, très fort. Puis quelqu'un qui... Il ne voit pas de limite.
Oui, mais avec la lunette de coconut, là, parce qu'on a la même lunette que le jeune qui va te regarder. Puis cet exemple qu'on veut avoir, juste ce côté, t'es humble.
Tu sais, je vais te raconter une histoire parce que des fois, j'entends des choses sur moi puis je me dis de qui il parle. je vais te raconter une histoire. J'ai engagé une amie, quelqu'un que j'ai appris à connaître à la caisse. Elle s'appelle Judith Dorville, elle est spécialisée en communication.
Okay.
Elle est spécialisée dans tout ce qui est la gestion du brand. Okay? Puis moi, je fais beaucoup de panels, beaucoup d'entrevues, puis beaucoup de conférences. J'ai dit à Judith, m'aider à gérer les entrevues, les conférences. Judith, elle a fait mon storytelling. C'est comme mon histoire, OK? Fait que là, elle prépare ça. On s'assoit ensemble pendant deux jours. Puis là, un mois après, Alain m'envoie mon histoire.
Ah, tu dis, mais
là, je lis l'histoire. Je dis, c'est une super belle histoire. Elle dit, mais oui, c'est toi. je descends, c'est comme le qui repart.
Ah, mais oui, j'en ai une autre pour toi. Comment qu'on a su que tu existais? Je suis d'origine haïtienne, mes parents sont full impliqués, on connaît les Carla Beauvais, pas mal tout le monde. C'est vraiment, là, tellement que tu marques les gens. Puis là, on est à C2 Montréal, cette grande foire du toutmontréal.com, là, je te dirais. Puis là, on rencontre un vice-président à la RBCX, Guillaume Dottili-Dion. Puis là, il dit, incroyable. Puis là, il dit, vous êtes le podcast numéro 1 de la diversité.
Ouais.
OK, avez-vous passé en entrevue Will Steagel? Puis là, je dis, puis il me dit, ben là, mon ami m'a dit, comme il faut, t'as pas encore interviewé la diversité. Puis là, tu sais, il m'a mis en contact un peu.
C'est exact, c'est ça.
Mais, tu sais, des fois, pour venir, le réseautage.
Oui.
Tu sais, on va terminer là-dessus notre entrevue, puis regarde, tu vas être un abonné à chaque année, on va venir prendre des nouvelles de la finance, là. On va travailler, faire des capsules éducatives.
Ça m'intéresse, Alain. Je vais faire des capsules de formation.
On va faire ça ensemble.
Ouais.
Euh, Wills, t'es à Gênes. Le fait que tout ce milieu de la finance est venu à reconnaître de manière indéniable les compétences qui étaient tiennes.
Ouais.
Quelle satisfaction que ça te fait par la suite, parce que là, nous autres, on brosse ton portrait.
Ouais.
Tu sais, pour toi, des fois, tu n'as pas le temps de faire des arrêts sur image comme on est en train de le faire. Mais de savoir que ton nom circule d'aussi belle manière du monde, tu sais, des big boss là, au Québec, là, qui disent « Hey, il faut que tu ailles parler au noir le plus puissant du Québec. » C'est comme ça qu'on m'a présenté, là, c'était à Gênes.
Ouais.
On veut pas trop te rendre mal à l'aise, on l'a pas trop vendu même, là. Mais il a peur que t'es la personne à connaître. Ça te fait quoi quand tu regardes ça avec un certain recul?
Mm-hmm.
Est-ce que tu sens que t'en as accompli du chemin? Puis il y a un sentiment de devoir, tu sais, du travail qui se fait bien. On aimerait t'entendre, là.
Ben, écoute, Alain, sans paraître prétentieux, tu sais, moi, je l'ai dit tantôt, je vais être satisfait quand on va voir le prochain Google puis Amazon. Tu sais, je tiens à souligner Franz Atelemi qui a amené l'Edartech en bourse, que je trouve tout à fait incroyable, un homme que j'admire. Il en faut d'autres. Fait que moi, là, la journée, je vais dire « Waouh, je suis fier, je suis content, j'ai accompli quelque chose », c'est quand on va les avoir, nos Amazon, nos Google qui vont engager.
Nos Coca-Cola, Gardi Fury, qui a son kombucha, qui se mettraient à faire d'autres boissons.
Qui vont engager 150 000 personnes à travers le monde. Là, je vais être satisfait. Okay? Mais là, je suis sur ma fin. Là, j'ai dans la façon que ça fonctionne dans mon cerveau, c'est je suis en train de bâtir la maison, mais là, je suis au niveau de la fondation. Je n'ai pas mis les briques encore. J'ai hâte qu'on mette les briques. Puis j'ai hâte là, d'être à l'extérieur de la maison et de la regarder et de dire « Waouh, on a bâti un manoir. »
Puis tu n'as pas peur de travailler avec tes semblables? De donner des postes comme tu avais fait, là, d'embaucher des stagiaires issus de la diversité. Aujourd'hui, étant ce professionnel aguerri, accompli, toi, tu y vas vraiment pour les compétences et es-tu certain qu'il y a toutes les compétences qu'il faut au sein de la diversité pour mener à bien ton projet?
Mais moi j'en suis l'exemple. T'sais, souvent, les gens, quand ils me parlent, ils me disent « Oh, wow, c'est le fun, t'es super intelligent. » Honnêtement, Alain, je me suis toujours considéré comme une intelligence moyenne. Okay. Par contre, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus travaillant que la moyenne.
Ok, t'es un bosseur.
Moi, je travaille. Je suis comme... Ouais. Comme
je suis ponctuel.
Je suis comme. Ouais. Quand j'ai une vision, avec mon effort, mon intelligence moyenne devient une intelligence élevée. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est l'effort. Quand je rencontre des gens, premièrement, je suis quelqu'un qui est très attiré par les gens parce que quand j'évolue dans la vie, c'est parce que je rencontre des gens comme toi. Le fait de vous découvrir me fait évoluer. Les gens ont des richesses en eux. Puis je pense que c'est le fait que je suis né avec 7 frères et sœurs. Chaque personne est différente, puis quand tu vis avec eux, tu es obligé de les découvrir. Ça fait en sorte que je veux rencontrer les gens, puis je veux les découvrir. Fait que ce soit un étudiant ou un professionnel comme toi, à chaque fois je m'assois, puis je rencontre, puis j'écoute, je grandis.
Wow.
Chaque personne a une richesse, Alain, que quand tu es attentionné, ça te fait grandir. Fait que moi, c'est ça qui m'allume.
Écoute, on vient de faire toute une entrevue. Je vais... quasiment la terminer de la même façon que je l'avais commencé. Nous a dit, ouais, mais là, moi, je m'occupe de mes affaires de fonds d'investissement, moi, la politique. Après cette entrevue-là, là, regarde, moi, je sais qu'il y a pas mal de têtes chercheuses qui vont regarder cette entrevue. Puis l'équipe de M. Poilièvre, l'équipe de M. Trudeau, par exemple, Jack Metzing t'approche puis te disent « Will, c'était à Gênes. On te pressent comme membre du cabinet du gouvernement canadien. Peut-être même des chances de faire partie du conseil privé du roi Charles III. Hein? Écoute, puis on te pressent même, on dit « T'es le prochain Chrystia Freeland. » Ministre des Finances pour le Canada. Là, tu as les cordons de la bourse. Parce que je ne sais pas, peut-être que tu en avais plus à la caisse de dépôt. Mais Est-ce que, là c'est Trudeau, là, monsieur ouais. Justin Trudeau, notre PM,
ouais.
qui t'appelle sur ta ligne privée, Wills, puis qui te courtise. Est-ce que tu vas aller voir Mme Perrin et dire, Mme chérie, qu'est-ce qu'on va penser? Quelle décision pour nous apporter? J'aimerais t'entendre.
C'est ce que je vais répondre à cette fameuse personne, M. Trudeau Wall. Je vais répondre, est-ce que l'euro va m'aider à bâtir le prochain GAFAM dans les communautés de la diversité? Puis tu sais c'est quoi les GAFAM, Alain?
Ben oui, okay. Google, Alphabet,
Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft. Hey, ça va être ça ma réponse.
Je pense que là, ils négocient à rabais avec eux autres.
Si ce n'est pas un rôle qui va permettre ça, parce que ce que je fais présentement avec mon fonds d'investissement, c'est exactement ce qui est. C'est mon rêve. Je vis mon rêve à chaque jour. Parce que je rencontre des gens comme toi, des entrepreneurs, puis on est en train de façonner le futur du Québec et du Canada en bâtissant de la richesse. Il n'y a rien de plus valorisant que ça.
Écoute, Will, t'es à Jeanne. Tu termines l'entrevue sur une note si positive. Écoute, Coconut Podcast, on a eu cette opportunité d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations pour lesquels tu travailles énormément
ouais,
avec
beaucoup.
Tes fonds d'investissement exact. Pour la diversité. Puis je peux te dire qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, d'entrepreneuses chez ouais. nos frères et sœurs des Premières Nations. Donc, en tout cas, beau travail. Eh bien, on a appris à dire merci ouais. dans pas mal de langues pour les partager avec notre audience. On est allé sur la Côte-Nord. Et en langue Innu, ils nous disent « Chinash Kumitin
ouais. ».
Par la suite, on est descendu sur Québec. On est allé voir nos frères et sœurs Huron-Wendat. Et là, ils nous disent « Tehawek ». Écoute, quand notre podcast, nous autres, on se promène, on est allé vers nos frères et sœurs en territoire Mi'kmaq. Puis là, ils nous disent « Ouais, Laline ». Quand notre podcast, c'est comment qu'on est, nous autres, on n'arrête pas, on est comme tous les boulots de travail. On est allé voir les Abénakis dans le centre du Québec. Puis là, ils nous disent « Oh, Léone ». On a rencontré Mme Plante à quelques reprises. Elle nous a dit, il faut que vous allez voir mon coin de pays. On est monté vers hein, Picaugan, Lac-Simon,
oh, oui.
Abitibi,
wow.
Témiscamingue. On est allé voir nos frères et sœurs en langue algonquine. Ils nous disent Miigwech. Mm-hmm. Puis là, nous autres, on est dans la région de Montréal. Puis on a nos frères et sœurs en langue Mohawk, entre ouais. autres. Ils nous disent Niawan. Et puis regardez. Ou son natif natal,
haïtien.
Ou son bon haïtien,
Haïti
chéri. Alors, Mabzou Yonkran, merci, merci en pile. Regardez,
ouais.
nous avons dit que nous avons des grandes personnalités de la communauté haïtienne, ou c'est un poteau mitan, ou c'est un grand chef communauté. Nous sommes contents de rencontrer eux. Écoute, tu es dans la lignée des Saint-Elmi, monsieur le chancelier, le grand Makita Jelly Jeff.
Ouais.
Hein, hein, connais-tu un peu Wolof?
Ouais.
Hein, quand même. Puis là, on a Will Steagène avec nous. Écoute, j'aimerais ça que tu nous présentes une femme noire qui travaille dans
j'en
le milieu
ai plusieurs,
de la finance. Entre autres,
Barbara Boucher,
ben,
à la Caisse de dépôt.
Ben.
Chez PSP, il y a Norberta Faustin.
OK, OK.
Femme fantastique, Yolande James, on a des belles femmes noires, super intelligentes, dans des pouvoirs d'influence, à la Caisse de dépôt, 430 milliards, chez PSP, presque 300 milliards sous gestion. C'est des femmes noires cadres, il faut absolument que tu
rencontres. S'il y a un milliard qui peut se diriger
ouais,
vers
pour
la diversité.
Ouais.
Ah, pour que hey, écoute, Will, c'était à Jeanne, toute
Alain, merci,
entrevue.
Merci
vraiment.
Bravo pour ce que tu fais.
Ah, puis on lâche pas, écoute.
Ouais.
Balado numéro 1 de la diversité, on se voit au Will Steagène. Merci, messieurs les ministres, monsieur le premier ministre, merci pour cette pluie. On a l'homme le plus puissant dans la communauté noire au Québec, au Canada. Merci, Will.
Merci, Alain.
Messieurs, dames, oui, alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec, mais écoutez, cette légende vivante du monde de la finance, je pense que un prix de la gouverneure générale, l'Ordre du Canada, l'Ordre du Québec, écoutez, faites le chevalier de l'Ordre, il est en train de changer l'ordre des choses, oui, au Canada, permettant aux gens de la diversité d'accéder à du financement afin de pouvoir mener à bien leurs entreprises. Vraiment, Coconut Podcast, on est encore en train de se pincer. On est à la citadelle, puis Carla n'est même pas là. Écoutez, on a enlevé nos chaussures, on se fera pas chicaner. Alors vraiment, écoutez, moi, aujourd'hui, c'est tout bénef. Will Stéagène, à la citadelle, on est en train de voir l'arrière-boutique de la Fondation Dynastie, Galin Dynastie. Écoutez, messieurs, dames, on peut pas tout montrer. Alors sur ce, on se revoit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast, mais avant tout, allez lire sur le monde de la finance et surtout, abonnez-vous aux pages de Will Stéagène, entre autres sur LinkedIn, afin de suivre ce qu'il nous partage et peut-être ainsi, vous trouverez le financement pour votre prochain grand projet. Messieurs, dames, c'était Alain Jo sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, merci, Niawen, au revoir. Ciao! Olé, 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 olé.